L'accueil d'urgence ou accueil de jour est une des spécificités de l'association Chorus, qui appartient à l'association GAM. Ici, 19 rue Saint-Claude, des SDF viennent tous les jours commencer leur journée à la quête de plusieurs services que rend l'association. Aujourd'hui, je me suis attaché à interroger trois personnes, dont les missions et les rôles sont bien différents. Je vous propose de découvrir Guillaume.
Je m'appelle Guillaume et je suis agent de service ici à l'association Chorus. Et mon rôle est de servir des cafés, des petits déjeuners, l'accueil des douches, avec un vestiaire d'urgence, des machines à laver, un coin bagagerie où ils puissent poser leurs affaires. Mon travail est d'être à leur service et aussi de former les bénévoles. Parce que nous sommes deux agents de service. Et nous avons, je crois, une vingtaine, une trentaine de bénévoles qu'il faut former, leur expliquer un petit peu comment marchent les services et pour que si un jour nous ne puissions pas être là, ils puissent eux-mêmes le faire.
Et vous êtes ouvert quand ?
Alors, on est ouvert tous les jours de 8h30 à midi et de 14h à 17h, sauf le mardi après-midi.
Pourquoi est-ce que ça a été mis en place ? Enfin, vous savez, l'origine du...
Ça a été mis en place il y a quelques années, je crois, une quarantaine d'années, je crois. Et j'avais entendu dire qu'au départ, c'était juste une association qui s'était créée et qui voulait juste proposer un petit déjeuner aux personnes avec un croissant et un verre de lait ou un café. Et puis après, ça s'est développé et c'est devenu l'accueil que vous visitez actuellement là.
Vous, ça fait combien de temps que vous y travaillez ?
Je travaille depuis le mois d'août.
Depuis le mois d'août.
Ça fait 6 mois.
Ah, ça fait 6 mois. Vous êtes de Montpellier ?
Oui.
Et vous saurez dire à peu près si le nombre de SDF a augmenté depuis...
Depuis le mois d'août, il est à peu près stable, mais je sais que depuis quelques années, il a à peu près doublé. Je vois sur ce que nous accueillons, parce qu'il paraît qu'il y a 2-3 ans, on servait à peu près 150 petits déjeuners par jour. Aujourd'hui, on est pas loin de 300, et des fois on les dépasse. Et ce qui est assez bizarre, c'est que plus il fait froid, plus il fait mauvais, moins nous avons de monde. Parce que comme il fait froid ou quand il pleut, ils restent au chaud dans leur abri, dans leur squat, enfin l'endroit où ils trouvent place, et généralement ils ne bougent pas. Par contre, quand il fait meilleur, quand il fait chaud, l'été, on a beaucoup plus de monde.
Les personnes qui viennent, ce sont exclusivement des sans-abri ou...
La spécificité, c'est qu'il faut qu'ils soient sans-abri. Si ils ont un logement ou s'ils vivent dans un foyer, ils n'ont pas droit au petit déjeuner ni au service qu'on propose.
Et comment vous vérifiez ça ?
Ben c'est pour ça que le suivi, généralement, quand ils viennent, ils se présentent et qu'ils disent qu'ils n'ont pas de logement... On leur propose le petit déjeuner, la douche, mais ils ont aussi un suivi administratif. Et ils ont un suivi avec leur travailleur social, et avec ce suivi, on sait s'ils ont du logement ou pas. Et à partir du moment où ils ont un logement, où ils rentrent en foyer, à partir de là, ils ne peuvent plus avoir droit au service du petit déjeuner, de la douche.
Et l'après-midi, quand vous êtes ouvert, c'est juste la douche ?
La douche, et les bois, et aussi, ils peuvent venir se reposer ou s'asseoir sur la table avec les boissons qui nous restent de la matinée. Ils peuvent aussi boire le reste des boissons. Il y a un bénévole qui vient donner des cours de français, de langue étrangère. Nous avons aussi des services civiques qui viennent le jeudi, le vendredi, et l'après-midi, ils préparent des ateliers jeux, par exemple. On essaye de trouver des activités aussi les après-midi.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça comme travail ?
Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que si on voulait s'occuper de soi de manière efficace, il fallait s'occuper des autres. Et si on veut s'occuper des autres, il faut savoir s'occuper de soi. Alors pourquoi c'est pas un métier, hein, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, c'est se vouloir se rendre utile, vouloir leur apporter un minimum de confort, un minimum de voilà, être utile et et leur proposer une main, leur dire vous êtes dans une période difficile, c'est pas grave, on est là pour vous tendre une main pour vous sortir de là. Voilà.
Et pour les personnes que vous avez rencontrées, les SDF, est-ce que la majorité sont SDF par fatalité, la vie, ou il y en a qui sont par choix aussi?
Un peu de tout. Il y a des SDF qui sont à la rue depuis plusieurs années, parce que c'est aussi leur choix, parce que des fois, quand on leur propose un appartement ou un foyer, ils ne le veulent pas ou ils n'y restent pas. Il y a des gens, oui, et après il y a la misère sociale, et puis il y a aussi beaucoup des gens qui sont des demandeurs d'asile, qui viennent d'autres pays, forcément, en attendant, ils sont à la rue, mais oui, et puis après il y a beaucoup de gens aussi qui ont aussi quelques pathologies mentales, je pense aussi, et c'est pour eux difficile de s'insérer, de se sociabiliser, et voilà, notre rôle est un petit peu de nous occuper des gens que la société ne veut pas ou ne peut pas s'occuper.
Où est-ce que vous obtenez les croissants, enfin,
les croissants, on les obtient à un point chaud, une boulangerie qui est à côté, et ensuite, pour tout ce qui est notre petit déjeuner, tout ce qui est yaourt, fruits, c'est la banque alimentaire qui nous fournit deux fois par semaine, le mardi et jeudi. Nous allons le mardi après-midi, c'est pour ça que nous sommes fermés, pour pouvoir réceptionner, et nous allons aussi le jeudi après-midi.
Mais le boulanger, il vous les fait gratuit?
Ah non, ah non. Et je pense qu'il fait un prix, je crois que c'était autour de 30 centimes le croissant. Ça, c'est mon chef de service qui vous le confirmera. Et la banque alimentaire, par contre, c'est payant aussi, hein, c'est 18 centimes le kilo. Hein.
Ah, vous allez chercher à côté de l'aéroport?
Voilà, à Moguio, oui.
La chose la plus difficile à laquelle vous avez été confronté?
Je crois que c'était pas difficile, mais bon, qui m'a un peu refroidi, c'est la semaine dernière, j'ai mis les chaussures de monsieur au sèche-linge, et de là, il était pas content parce qu'il m'a dit, écoute, 170 euros ces chaussures, et il m'a dit, il m'a fait comme une menace, avec comme s'il avait un couteau à la main, il m'a mis le couteau sur la gorge, et il m'a dit, tu vois, les chaussures, si elles sont abîmées, tu l'as là, le couteau, hein. Mais j'ai pas eu peur. C'était difficile à gérer, mais j'ai pas eu peur parce qu'il a fallu le calmer. Mais, c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai eu à gérer, mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est jamais traumatisant parce qu'on a la chance d'être vraiment entouré entre responsables ou gens qui sont derrière des travailleurs sociaux qui, dès qu'ils voient qu'il y a un moment de crise, un moment de dispute, de suite vous entourez à deux ou trois, vous n'êtes jamais seul.
C'était le point de vue de Guillaume, la première personne que vous croiserez en arrivant à Corus, la vitrine de l'association. C'est en allant dans les bureaux, derrière le brouhaha des SDF en train de prendre le petit déjeuner, que j'ai rencontré Émilie, qui accomplit une tâche bien différente.
Donc je m'appelle Émilie Bossan, je suis travailleur social au service d'accueil et d'orientation à Corus.
Donc vous êtes salarié?
Oui.
Vous êtes en temps complet?
Oui.
C'est quoi votre tâche exactement?
On va dire que ma formation spécifique, c'est éducatrice spécialisée. Après, on est toute une équipe de travailleurs sociaux, on a tous des formations différentes. Et sur le service d'accueil et d'orientation, nous avons deux missions. La première, c'est d'accueillir toutes les personnes qui se présentent, aux heures d'ouverture bien sûr, toutes les personnes qui se présentent et qui ont besoin de voir un travailleur social en urgence. On les accueille, on présente notre service, on les écoute, elles nous font part de leurs demandes, de leurs besoins. Et nous, dans ce premier temps, on fait une première évaluation sociale et on informe les personnes, on les oriente sur les différents dispositifs sur place, sur le territoire montpelliérain. Et notre deuxième mission, c'est d'effectuer un accompagnement social auprès des personnes adultes, sans enfants à charge et à la rue.
Ça veut dire quoi, accompagnement social ?
Un accompagnement social, eh bien, c'est de soutenir les personnes dans leur démarche, qu'elle touche à l'administratif, à la santé, sur d'autres points plus spécifiques, auquel cas peut-être qu'on orientera à ce moment-là vers des services aussi bien spécifiques d'accompagnement. Mais on va dire que notre mission majeure, c'est de sortir les gens, de trouver des, solutions stables pour que les personnes ne restent pas dans la rue, à dormir dehors.
Si vous prenez un exemple, la dernière personne que vous avez aidée, vous l'avez aidée à faire quoi ?
Il y a des personnes qui se retrouvent devant nous suite à un accident de parcours, une perte d'emploi, donc une perte de logement. D'autres sont, ça pourrait être lié à une rupture, suite à une rupture sentimentale. Et pour d'autres personnes, ça peut être des difficultés accumulées sur le long terme. Et du coup, le soutien, l'accompagnement ne sera pas le même. Par exemple, là tout dernièrement, j'accompagne un couple de personnes. Monsieur est en CDI, madame est sans ressources. Et ils se confrontent quand même à la dure réalité du marché immobilier sur Montpellier, où les bailleurs privés demandent des garanties que eux ne peuvent pas apporter. Et ils se retrouvent à être hébergés à droite à gauche. C'est malgré les conditions de vie de ce couple, monsieur maintient quand même son emploi. Et madame se présente, adhère à l'accompagnement, même s'il y a aussi, bon, pour madame en tout cas, la barrière de la langue en plus. Mais il y a une forme d'autonomie certaine pour ce couple. Et du coup, ils se sont présentés ici parce qu'ils se retrouvent bloqués dans leur situation, alors que monsieur a un emploi quand même, en CDI à temps plein. Donc mon travail, c'est de voir, notamment en équipe, dans mon équipe, ça c'est super important, quelles sont les solutions qui peuvent être proposées pour ce couple. Les orienter vers les différents dispositifs d'accompagnement, vers l'accès au logement, et essayer de voir les dispositifs qui permettent l'accès au logement, sans exiger des garants qui sont difficiles à avoir. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de couple que j'ai accompagné. Après, il peut y avoir aussi des situations où les personnes sont dans ce qu'on appelle une grande précarité et une grande vulnérabilité. Parce que des personnes qui se retrouvent sans hébergement stable depuis des années, à dormir dehors pendant très très longtemps, ça a un impact sur leur santé, sur l'isolement. Il y a une forme d'engrenage, en fait, qui se met en place.
Vous les aidez psychologiquement ou pas, enfin, pas plus que ça ?
Nous, notre travail, on n'est pas psychologue, en fait, hein, ni psychothérapeute. Nous, on est travailleurs sociaux. Après, ça peut être, quand une personne rentre sur notre service, ça peut être un premier espace d'écoute pour eux. Mais nous, en tant que travailleur social, si la personne nous présente des difficultés et un besoin d'une écoute que nous, on ne peut pas apporter, qui est de l'ordre du thérapeutique, on va orienter les personnes sur soit les infirmiers psy de l'UMIP, soit sur notre psychologue qui intervient sur notre service, gratuitement et sur rendez-vous.
Du coup, vous êtes en quelque sorte des facilitateurs, vous facilitez les liens entre la personne, ce que vous allez identifier ce dont elle a besoin, et l'amener à aller vers...
Oui, à l'orienter.
À l'orienter.
Voilà, à l'orienter vers, une réponse peut-être spécifique à son besoin ou à la demande qu'elle formule, j'espère. Ouais. Et juste pour terminer, c'est pour ça aussi que... Du coup, les différentes personnes que l'on peut recevoir, elles peuvent présenter des problématiques différentes. Et c'est pour ça que le travail aussi en partenariat est essentiel et très très présent dans notre quotidien. Vers les services de santé, vers les services d'accompagnement spécifiques, je pense à tous les dispositifs d'accompagnement vers la réduction des risques, notamment pour les personnes qui ont des problématiques addictives, comme on dit. Alcoolisme, toxicomanie, après...
Est-ce que parfois vous vous sentez démunie ?
On se sent limité, enfin en tout cas moi je me sens limité dans les moyens qu'on a à disposition. Et c'est ce que j'explique souvent en premier entretien auprès des personnes qui viennent et qui disent, qui sollicitent un hébergement, une solution stable. On est confronté quand même sur Montpellier à un manque de moyens. En gros, les loyers sont excessifs. Les bailleurs demandent des garanties que les personnes ne peuvent pas apporter. Du coup, ça se répercute sur les demandes de logements sociaux qui sont très importantes par rapport aux places qui sont disponibles. Et du coup, ça se compte en années, le temps d'attente pour accéder à un logement social. Et après, il y a des dispositifs, hein, d'hébergement sociaux, d'hébergement stable ou de logement adapté, comme on dit. Où là, c'est des temps d'attente qu'on nous fournit au SIAO, c'est donc un autre dispositif. C'est entre 6 mois et 1 an et demi d'attente. Et en attendant, il y a le 115. Et le 115 est saturé. Donc, voilà, si une personne est isolée et elle n'a pas de solution de dépannage, eh ben, elle peut se retrouver, dehors pendant un petit moment, oui.
Okay. La situation la plus dure que vous avez eu à traverser ici? Une qui vous a marqué quand on vous l'a dit, vous y avez pensé un petit peu pendant quelques temps?
Il s'agit d'un monsieur qui est venu d'Algérie avec son fils, situation de handicap, qui s'est retrouvé sur Montpellier beaucoup plus longtemps que ce qu'il l'aurait pensé. En fait, ça a fait intervenir pas mal de partenaires, le conseil départemental notamment, pour permettre à cet enfant de rester sur Montpellier dans une famille d'accueil le temps qu'il puisse terminer ses études. Et ça a impliqué une séparation entre ce monsieur et son fils, qui est retourné dans son pays d'origine, et sans avoir la possibilité de revenir. Parce que son visa, quand il est venu, son visa avait expiré, etc. Il avait fait différentes démarches qui n'ont pas abouti auprès de la préfecture en termes de régularisation. Et du coup, il savait, ce monsieur, que s'il repartait, il ne pourrait pas revenir si facilement que ça. Donc ça a été très dur, en fait. Enfin, pour moi, ça m'a marqué. Ces conditions de séparation qui ont été voulues par l'un comme par l'autre, mais on sentait, quand je les voyais en entretien, je voyais aussi le déchirement du père.
Une situation qui s'est bien finie, bon souvenir pour le coup, pour finir sur une note positive.
Oui. Là, il s'agit aussi d'une famille aussi, composée de 3 personnes, donc un couple et leur enfant majeur, en situation de handicap aussi, pour lesquels ça a été aussi compliqué, parce que il n'y avait que le père qui était en situation régulière. Ils avaient trouvé une solution, on va dire, une solution pour se mettre à l'abri, chez une tierce personne. Et ça n'a pas tenu. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain dehors. Et ce même jour, la mère m'a appris qu'elle avait de gros problèmes de santé. Déjà, lui, il avait des problèmes de santé, le monsieur. Elle, m'annonçant qu'elle avait des gros problèmes de santé qui impliquaient une intervention chirurgicale, et avec leur fils majeur en situation de handicap physique. Du coup, là, il y a eu un gros travail de partenariat avec un dispositif qui s'appelle les lits de soins. Et ils ont pu les accueillir le temps que madame puisse avoir ses soins. Et par la suite, ils ont pu accéder à un hébergement qu'on appelle les appartements de coordination thérapeutique, où ils sont depuis fin décembre, là, et sur lequel la famille va pouvoir se poser, s'occuper de leurs soins, de leurs démarches administratives, et prendre le temps de préparer l'après.
Des gens comme Emily agissent afin de donner un meilleur lendemain à toutes ces personnes que nous voyons dans la rue, près d'un supermarché, à un feu rouge, sans forcément nous y intéresser. Ces personnes-là sont parfois, souvent, dans une certaine détresse. Une note positive avec un jeune garçon qui s'en est sorti, qui va mieux maintenant, notamment grâce à l'association, grâce à des personnes impliquées.
Bah, déjà, je me présente, je suis Monsieur Samir, j'ai 21 ans, je viens de Marseille.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici?
Ben, je suis venu chercher de l'aide, entre guillemets, parce que je me suis retrouvé à la rue. Moi, quand je connaissais pas la rue ni rien, du coup, j'avais besoin de travailleurs sociaux pour essayer de m'en sortir, et voilà.
Et comment est-ce que vous êtes retrouvé à la rue?
Ben, j'ai perdu mon appart et mon travail, du coup, voilà.
Et du coup, vous êtes resté ici combien de temps?
Un mois.
Donc là, ça fait, vous avez retrouvé un...
Retrouvé un appart, j'ai retrouvé du travail.
Dans quelle mesure est-ce que l'organisme vous a aidé?
Pour tout ce qui est papier, pour tout ce qui est trouver un appartement aussi. Parce que j'ai trouvé un appart grâce à l'assistance sociale qui m'a orienté vers une autre association qui a pu me prêter un appart pendant 3 mois pour m'aider à m'en sortir. C'est toujours de l'hébergement d'urgence, mais qui permet de... avec cet appartement-là, de m'avoir trouvé du travail, et qui dit du travail, dit pouvoir avoir un appartement. Ouais.
Quand vous étiez sans logement pendant ce mois-là, la journée type...
Ben, on va dire les choses clairement comme il faut quand j'étais SDF. Mes journées type, c'était le matin, je me levais à 6h du matin, Parce que j'allais prendre, je venais ici à 8h30, prendre une douche. Quand je devais voir des assistantes sociales, j'allais voir les assistantes sociales le matin. Et après, c'était beaucoup distribution de CV le matin. Et l'après-midi, j'allais faire la manche pour essayer de manger, essayer de me payer l'hôtel surtout. Le plus dur, c'est le regard des gens. Après, le reste, c'est tout ce qui est mental. Quand on a le mental, on a tout. Il faut le garder, ce mental.
Le regard des gens, ça...
Le regard des gens, c'est... par exemple, quand vous êtes en train de faire la manche, que les gens vous regardent comme une grosse merde en disant « Va travailler, t'es un bon à rien, voilà. »
Est-ce que, par rapport aux autres SDF, vous êtes beaucoup dans le même cas ou...
Bah écoutez, moi, pendant mes 1 mois de rue, je n'ai pas côtoyé d'autres SDF, dans mon côté, pour justement m'en sortir. Parce que si je voulais m'en sortir, je me suis dit, première chose, ne pas boire, ne pas côtoyer d'autres SDF, parce que c'est pas dans ce délire-là que je pourrais avancer.
Non, ça a été long
Un mois, ça peut être court, parce qu'on dit que c'est court,
ouais.
Mais c'est un mois qui est, qu'on dirait, 2-3 mois, en fait.
Ouais.
Ah ouais, c'est très très long. C'est très long. 5 jours, on peut dire qu'on les multiplie par 2.
Il y a beaucoup d'ennuis.
Pas beaucoup d'ennuis, mais surtout le fait que on sait pas où le soir on va dormir, on sait pas qu'est-ce qu'on va manger, on vit au jour le jour, donc voilà. Donc entre les problèmes avec la police, entre les amendes qu'on se reçoit aussi pour vouloir s'en sortir. Oui, parce que la manche est interdite. Du coup, la mendicité est illégale sur Montpellier. Donc la police municipale nous font la guerre pour ça, donc ils nous mettent des amendes pour dire que c'est interdit. Il faut dire ce qui est, parce que pour moi c'est inacceptable qu'on soit à la rue, qu'on veuille s'en sortir, et que la police, parce qu'il y a un décret qui dit que la mendicité est illégale, qui nous met des amendes de 11 €, pour mauvais stationnement en gros, c'est ce que ça veut dire, pour la mendicité. Qu'on puisse mettre des amendes déjà aux personnes qui sont en difficulté, mais gravement, mais en plus pour qui veulent s'en sortir pour manger.
Maintenant, ça fait combien de temps que vous avez retrouvé un travail?
Ça fait une semaine que j'ai signé mon contrat et que j'ai retrouvé l'appart, ça va faire une quinzaine de jours.
En comparaison, votre état d'esprit avant que ça arrive et maintenant, je sais pas, est-ce que vous vous sentez grandi quelque part?
Oui, parce que c'est une expérience qui est... Je dis pas à vivre, mais c'est une expérience qui nous fait évoluer et qui fait que on voit la différence entre quelqu'un qui est à la maison, qui reste sur notre canapé, qu'on rentre le soir et tout ça, et être à la rue, ça nous change. Moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé comme ça et je me suis demandé, what, qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi les qualités mentales qu'il faut pour s'en sortir?
Déjà, avoir la tête sur les épaules, pas boire, ça c'est très important si on veut s'en sortir. Parce que une personne qui va boire pourra pas automatiquement aller voir les travailleurs sociaux, aller voir tout ça. Ça, c'est très important. Si vous voulez, s'ils veulent s'en sortir, les personnes qui sont à la rue ou voilà, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Et grâce à ça, il y a plein d'associations qui puissent nous aider, comme Issu. Il y a aussi la Maraude le soir qui nous aide parce qu'ils viennent nous apporter à manger justement. Et il y a plein d'autres associations qui font qu'on puisse s'en sortir.
Et sans l'association, vous pensez que vous en seriez sorti?
Je vais vous dire honnêtement, oui et non. Parce que oui, parce que dans tous les cas, je me serais sorti de la merde. Et non, parce que je ne me serais peut-être pas sorti aussi vite.
Ce reportage sur l'accueil d'urgence de l'association Chorus, filiale de l'association GAM, est terminé. Vous en savez un peu plus maintenant sur quelque chose dont on parle peu, un sujet anxiogène. Nous sommes ici une radio engagée, Radio FM+, et nous sommes là pour en parler. Passez une bonne journée en notre compagnie sur la bande FM 91 à Montpellier et 103.1 à Nîmes.